France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Mathias Destal.
Bonsoir Zoé Svez.
Bonsoir, vous êtes l'un des cofondateurs. Vous êtes journaliste, hein, journaliste, on peut le dire. Vous êtes passé par Marianne. Et nous vous recevons ce soir parce que vous êtes l'un des cofondateurs de Disclose. Disclose, le projet a été annoncé, lancé le 6 novembre dernier. Projet de médias d'investigation à but non lucratif. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce que vous pourriez essayer de me définir ce projet très novateur en quelques mots?
Alors Disclose.ngo, qui est un site internet en ligne, va être un média d'investigation au long cours avec des équipes de journalistes, de 3 à 4 journalistes qui vont enquêter sur des grands sujets d'intérêt général pendant 3, 4, 5, 6 mois, voire un an si c'est nécessaire, afin de sortir des informations difficiles de les révéler dans des entreprises de presse autres que Disclose, parce qu'il faut du temps et des moyens. Et c'est ce qu'on va mettre en place là pour enfin avoir des informations d'intérêt général solides sur des sujets délaissés ou ardus.
Parce que c'est quoi le constat? On sait aujourd'hui, on en parle très souvent ici dans Soft Power, qu'il y a une crise de la presse. C'est à la fois évidemment une crise financière, une crise de crédibilité aussi. L'une alimente souvent l'autre. Quel est le constat et quelle est peut-être la place qui aujourd'hui n'existe pas pour ce type d'acteur? C'est quoi le constat concrètement? Vous êtes journaliste et vous travaillez avec d'autres journalistes au sein de cette ONG donc.
Oui, alors on est à Disclose une quinzaine de journalistes, on a tous fait et on fait encore de l'investigation, et le constat de l'équipe, c'est que l'investigation journalistique qui demande du temps et des moyens est de plus en plus difficile à supporter pour les médias, parce que la concentration des médias, c'est une première chose, mais la concurrence des médias qui doivent être sur du flux et répondre à un agenda de l'actualité fait qu'ils doivent avoir des journalistes dédiés à ces questions-là. Et l'investigation journalistique en devient le parent pauvre. Et nous, l'idée, c'est de concentrer toutes nos forces sur ces grands sujets. Ça signifie que on ne sortira pas une enquête, comme je vous disais, au bout d'une semaine, deux semaines ou trois semaines, avec un rédacteur en chef qui nous dira il faut la sortir, il faut qu'on remplisse nos pages, et puis il faut que tu partes sur autre chose. Donc, les enquêteurs, journalistes, resteront sur leurs enquêtes à temps plein pendant plusieurs mois avant de la sortir, sans contrainte de flux.
Effectivement, et ce qui est très très novateur aussi dans l'idée et dans l'ambition, c'est le financement de ces enquêtes. Parce qu'en fait, c'est un petit peu, évidemment, l'argent qui reste le nerf de la guerre. Absolument. Dans cette industrie comme celle des médias, même si ça n'est pas une industrie comme une autre. Et là, en l'occurrence, vous embrassez un modèle qui existe déjà à l'étranger, mais qui est tout à fait nouveau et peut-être culturellement assez difficile en France à faire admettre, qui est celui en fait de la philanthropie. Comment est-ce que vous comptez vous financer?
C'est ça, nous on est une organisation à but non lucratif, à l'image de d'autres médias à but non lucratif qui existent en Europe, en Allemagne par exemple Corrective, aux États-Unis ProPublica, qui est un peu le père de toutes ces organisations. En Angleterre aussi, The Bureau of Investigative Journalism. Voilà, il y en a beaucoup qui sont dédiés à l'investigation. En France, c'est pas le cas. C'est culturel probablement. Nous, l'idée, c'est de renouveler le contrat qu'on aurait avec nos lecteurs. Pas d'abonnés, mais des membres. Des membres. Vous avez dit ONG à un moment. Des membres d'une ONG de l'investigation et de l'information.
Donc, en gros, l'information est une cause comme une autre qu'il est nécessaire de défendre. C'est ça le principe.
C'est ça. Nous, on part du principe que l'information est un bien public et qu'elle est nécessaire au débat démocratique et au débat citoyen, et qu'il y a des informations aujourd'hui qui nous sont dissimulées, qu'il faut révéler pour nourrir le débat démocratique. Et pour ça, on s'appuie sur une communauté qu'on est en train de créer là, parce qu'on a lancé une campagne de levée de fonds participative sur le site, pour ne pas le citer, KissKissBankBank.
Mais citez-le.
On veut créer un grand mouvement autour de cette question de l'information et de l'intérêt général. Donc, il y aurait des dons de particuliers, des petits dons, mais aussi des dons de grands mécènes. On est en train de cibler des profils qui sont assez nouveaux, de personnes qui auraient entre 40 et 50 ans, qui ont gagné beaucoup d'argent, qui veulent aujourd'hui l'investir dans des causes à fort impact dans la société. L'information en est une. Et des fondations, des grandes fondations, alors internationales, il y en existe plusieurs. On pense souvent à l'Open Society, qui finance l'investigation à travers le monde, au Media Network, aussi une fondation américaine, qui finance pareil l'investigation à travers le monde, et beaucoup d'autres. En France, les fondations sont encore un peu frileuses.
Les fondations d'entreprise, on sait qu'on a de très grosses fondations d'entreprise en France. Est-ce que, à terme, évidemment avec les questions que ça pose derrière, la Fondation Total, la Fondation L'Oréal, est-ce que ça peut être potentiellement un jour des gens qui vous donneraient de l'argent, qui seraient d'accord pour le faire et vous d'accord pour en accepter, si évidemment, et on va en parler après, le modèle fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il y a une intentionnalité totale entre les gens qui vous donnent de l'argent et les enquêtes que vous faites?
Non, sur le principe, on ne veut pas être financé par des fondations d'entreprise parce qu'elles posent pour nous un certain nombre de problèmes, de conflits possibles, multiples et variés. On veut pas rentrer dans des pratiques de greenwashing, de journalisme washing, on parlerait pour nous. Et on s'est dit que ça serait un casse-tête de choisir entre la fondation Total et la fondation Evian. Deux exemples, mais qu'une serait peut-être éthiquement plus supportable que l'autre, et on ne voulait pas avoir à créer un comité d'éthique. Donc, les fondations d'entreprise, non, elles sont pas à l'ordre du jour.
Néanmoins, on reste sur une idée de philanthropie, une idée de philanthropie novatrice. Quelle est la structure, justement, de ce modèle de disclose qui permet aussi, parce que vous l'avez dit, culturellement en France, on est peu adepte de la philanthropie, alors qu'elle est très forte et dans tous les domaines, dans le monde anglo-saxon, par exemple. Comment est-ce qu'on garantit l'indépendance des enquêtes que vous faites? Et peut-être aussi, comment est-ce que vous luttez contre cette forme de défiance qu'on peut avoir en France contre ça? En quoi la structure porte-t-elle ces questions-là?
Alors, dans l'organisation Disclose.ngo, le principe est simple. Il n'y a pas de fléchage des investigations. C'est-à-dire qu'une fondation ou un philanthrope qui donnerait de l'argent ne donne pas de l'argent pour une investigation précise. Ça veut dire qu'il n'a pas une influence sur les sujets et sur l'éditorial de Disclose. C'est la première chose. Ensuite, à partir de 2000 euros de dons, l'identité du donateur sera rendu public sur le mur des donateurs, tout comme les fondations, le nom des fondations, tout ça sera très transparent. Et par ailleurs, il y a un conseil d'administration à Disclose, composé de 10 personnes, des avocats, des économistes, dont Julia Caget, des avocats François Laforgue, Joseph Bréham, Virginie Marquet, qui est membre de Informer n'est pas un délit, qui eux auront à charge de veiller à ce que la gestion de Disclose soit absolument désintéressée, mais ils ne seront pas dans le secret des enquêtes menées dans une autre structure qui est celle du comité éditorial.
Justement, parce que c'est aussi l'autre aspect très innovant de ce projet Disclose, c'est à la fois de pouvoir aussi solliciter certains des membres de cette ONG pour potentiellement les faire participer à des enquêtes, et c'est aussi potentiellement d'engager des actions derrière les enquêtes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? C'est-à-dire que en réalité aujourd'hui, on a des médias qui, quand ils le peuvent, révèlent des informations, parfois grâce à des donneurs d'alerte, mais effectivement, on est sur une logique où l'information est et finalement, parfois, il n'en arrive rien. On n'en sort plus rien.
Absolument. C'est un des principes fondamentaux de Disclose. C'est ce qu'on aime dire, c'est qu'on veut passer de l'indignation à l'action. Donc, une fois qu'une enquête sort et les révélations qui vont avec, on souhaite prolonger ce travail-là grâce aux avocats qui sont avec nous, pour par exemple mener des recours juridiques avec un plaidoyer, c'est toujours le même, le droit à l'information. Si on part sur une enquête sur le nucléaire et sur une centrale nucléaire qui aurait un tas de dysfonctionnements, on arrive à avoir des éléments, mais l'entreprise ne nous donne pas accès à tous ces éléments. Ce sont des informations d'intérêt public. Nos avocats et nous-mêmes, on s'organisera pour avoir un accès public, rendu public à ces informations pour que les citoyens s'en saisissent et nourrir le débat public. Donc ça, c'est une des possibilités. Ensuite, on veut travailler de manière collaborative avec nos membres, avec notre communauté. C'est-à-dire que les enquêtes pourront faire l'objet d'appels à sources au sein de l'équipe membre de la communauté de Disclose. Et on peut, par exemple, imaginer si on fait un sujet sur la pollution des rivières, plus de 90% des cours d'eau en France sont pollués, on peut imaginer qu'on fasse appel à la communauté qui irait, avec un kit qu'on leur aurait envoyé, refaire des prélèvements dans ces cours d'eau pour ensuite nous les renvoyer, les faire étudier en laboratoire. Ce ne serait pas les journalistes qui traverseraient la France pour aller récupérer ces échantillons, mais la communauté de membres active qui permettrait de faire remonter des informations nécessaires ensuite à notre base de travail.
Comment est-ce qu'elle est diffusée cette information ensuite? Est-ce que c'est vous qui la publiez? Est-ce que vous la vendez?
On ne la vend pas. Comme on est sur un modèle de don et de philanthropie, elle est en accès libre. Elle sera en accès libre sur notre site disclose.ngo et on travaille aussi avec des médias partenaires. Les médias partenaires ont pour seul engagement de la rendre également accessible à tous, gratuite. Ces médias, c'est Mediapart, Combini News, qui est un média qui parle à une cible qui n'est pas celle de l'investigation, donc une cible plus jeune et très qui s'informe sur les réseaux sociaux, sur Internet. La cellule Investigation de Radio France.
Bravo.
Et également des médias régionaux, les rues 89 à Bordeaux, Marseille et Lyon, et Mars Actu à Marseille.
Qui s'engagent du coup à ne pas faire de publicité sur les contenus qui sont issus de vos enquêtes.
C'est notamment le cas pour Combini News, ça a été l'objet de la discussion, et ils diffuseront une partie de l'enquête en vidéo, sans monétiser le contenu, donc en enlevant toutes les publicités.
Dernière question, quels sont les grands domaines dans lesquels vous comptez lancer des enquêtes, probablement les premières ?
Alors on a 6 grandes thématiques qui sont des thématiques d'intérêt public, d'intérêt général. Ça va être les crimes environnementaux, la justice sociale, la surveillance et les libertés fondamentales, l'agro-industrie et j'en oublie une, la santé publique.
Évidemment, la santé publique. Merci beaucoup, Mathias Destal. Vous êtes donc l'un des cofondateurs de Disclose. Je rappelle qu'il y a donc un appel à fonds participatif. Comment est-ce qu'on dit ? Très précisément, ouais. Appel levée de fonds participatif.
Levée de fonds participatif.
Sur KissKissBankBank qui se termine le...
Le 17 décembre.
Le 17 décembre, Disclose. Il y a donc un site. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous ce soir.